Santé, santé mentale, bien-être émotionnel et histoires humaines. Les mots comptaient, un podcast où l'on soigne tout simplement ce que l'on tait. Bonjour à tous, chers auditeurs de Jenna. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les mots comptaient. Oui, les mots comptaient, ces douleurs que nous taisons généralement. Nous parlons ici de ces choses petites ou grandes que nous avons pour habitude de taire et qui nous causent tellement de tort. Ici, nous parlons de santé, nous parlons de santé mentale, nous mettons la lumière sur le bien-être émotionnel et nous racontons des histoires humaines. Je suis Délivrance T, chers tous, et encore une fois, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose le vécu, le témoignage d'une maman. Sa fille est une adolescente de 14 ans qui est atteinte d'autisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? L'autisme est un trouble neurologique du développement. C'est quand une personne voit, comprend et ressent le monde d'une manière différente de la majorité des gens. C'est un trouble neurologique du développement donc, caractérisé par des difficultés de communication et d'interaction sociale. Vous verrez des personnes autistes qui ont du mal à exprimer des émotions ou à faire des choses aussi simples que bavarder. D'un autre côté, certaines personnes autistes peuvent avoir une grande facilité à comprendre des choses compliquées. En général, ces personnes ont simplement une façon de comprendre le monde qui est juste très différente de la perception des autres. Dans le trouble du spectre d'autisme, la sévérité du trouble peut aller de difficultés restreintes à des difficultés sévères avec déficience intellectuelle qui nécessite de grosses prises en charge. Nous reviendrons dessus dans un prochain numéro avec un psychologue pour expliquer réellement ce que c'est que l'autisme. Ainsi, nous allons écouter aujourd'hui le témoignage de Madame Chagbataou. Elle nous raconte la longue errance médicale qu'elle a connue avec son enfant depuis que la petite a eu 2 ans jusqu'à ses 8 ans. En passant de spécialiste en spécialiste, pédiatre, ophtalmologue, neurologue, ORL, etc., sans qu'aucun diagnostic clair ne soit posé. On lui disait qu'elle a juste un retard de croissance. Il a fallu attendre ses 8 ans pour qu'un psychologue les oriente sur la piste de l'autisme sans pour autant avoir un diagnostic formel. Elle raconte les difficultés d'être mère d'un enfant qui présente des traits autistiques entre comportements violents, problèmes d'attention, troubles du sommeil, incapacité émotionnelle, problèmes d'orientation, crise d'épilepsie, agitation, etc. Tant d'autres choses. Elle nous raconte le regard sévère de la société, les commentaires désobligeants dans la rue du genre « Qu'est-ce que tu as sur le dos ?» Vous voyez, vous imaginez la violence de ces mots où votre enfant est assimilé à une chose. Ou encore, les suspicions qu'un sort lui a été jeté. Elle raconte ses souvenirs douloureux, les séquelles physiques pour avoir longtemps porté sa fille au dos, les réactions du personnel médical qui parfois tombe comme un cheveu dans une soupe. Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi l'enfant crie comme ça ? Il est évident pourtant que si elle avait les réponses, elle ne serait pas à l'hôpital. La pression est constante. Le stress est élevé, mais elle est droite dans ses bottes. Et ce, malgré le fait que derrière tout cela, il n'y a pas de structure adaptée pour prendre correctement son enfant en charge. Écoutons ensemble le témoignage de Madame Chagbataou, épouse Urosama, mère d'une fille autiste de 14 ans, et présidente de l'association ATMM, Autisme, Togo, Merveille et Mystère. Alors, madame, encore merci d'avoir accepté de donner votre témoignage. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, vous-même ainsi que votre enfant?
Bonjour, madame Délivrance. Je suis madame Tchagotay, depuis récemment. Je suis mère d'une fille autiste de 14 ans maintenant. Je suis la présidente de l'association ATMM, Autisme Togo Merveille et Mystère, une association qui regroupe les parents qui ont des enfants autistes, dont le siège est à Lomé.
Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour emmener votre enfant consulter? Je veux dire, des comportements ou autre chose?
Au début, comment j'ai imaginé, j'ai eu l'idée que mon enfant pourrait être autiste. Les comportements, depuis moins d'un an, depuis l'âge de moins d'un an, le comportement qu'elle présente sont un peu en dehors du commun. Par exemple, elle ne vous regarde pas fixement dans le visage. Elle ne fixe pas le visage. Elle vous fuit du regard même si vous tentez de l'approcher, de la regarder dans les yeux, d'essayer de la faire sourire ou quelque chose dont elle ne vous regarde pas, elle ne prête pas attention. Elle a un regard toujours figé d'un autre côté. Ensuite, quand elle a commencé par vouloir se déplacer, que ce soit à quatre pattes ou bien pour marcher, on a remarqué qu'elle n'avait pas une bonne direction. Quand elle quitte, elle marche comme si elle ne voyait pas d'obstacle devant elle. Elle va soit cogner quelque chose, un mur, un meuble, avant de s'arrêter, de tomber même. Donc, on s'est demandé ou bien elle ne voyait pas. Comme elle fuyait du regard, elle ne répondait pas aussi à son nom. Quand on l'appelle par son nom, elle ne réagit pas. On s'est aussi posé des questions, ou bien elle n'entend pas. Elle a commencé par grandir, sans vraiment montrer toutes ces émotions-là, de joie, de colère, de peur. Non, elle ne s'exprimait pas également, ni par les gestes, ni par le regard. Rien, aucune expression. Donc, si elle a un besoin, elle est dérangée quelque part, c'est, elle exprime ça par des pleurs. Et donc, on a vu qu'elle grandissait normalement, physiquement, mais le comportement n'était pas celui d'un enfant de son âge, un an, deux ans, comme ça. Et on a commencé par s'inquiéter et on a commencé par faire le tour des spécialistes. Et quand bien même depuis l'enfance, depuis la naissance, on était suivi par un pédiatre. On était suivi par un pédiatre depuis l'enfance parce que très tôt, à quelques semaines de sa naissance, elle a eu une infection et donc on a fait un peu l'hôpital et à partir de là, on est suivi régulièrement par un pédiatre.
Et à partir de la première consultation, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu comment ça a été avec le circuit médical.
Après, quand on a commencé par voir que ses comportements étaient différents des enfants de son âge, donc, on s'est toujours inquiété chez le pédiatre qui nous a rassuré toujours que c'est un retard, que les enfants ne sont pas obligés de grandir au même rythme qu'elle avait un retard. Maintenant, suite à sa maladie, elle a commencé par développer des crises épileptiques. Donc, faisait des crises. Au début, on ne savait pas que c'est de l'épilepsie. Donc, le pédiatre nous a envoyé chez un neurologue et c'est le neurologue qui nous a dit que c'est des crises épileptiques. Et on a commencé par traiter les crises épileptiques avec le neurologue. Comme je disais, qu'elle ne regardait pas, elle ne prêtait pas attention. Même dans sa marche, elle allait cogner les choses. On s'est posé aussi la question, est-ce qu'elle voyait? Donc, on est allé voir les ophtalmologues pour voir si elle n'a pas de problème au niveau des yeux. Donc, de là, on nous a rassuré également qu'elle a un bon globe, il n'y a aucun problème là-bas. Ensuite, elle n'a même pas commencé par dire les premiers mots, ni même par dire barbier, dire baba, bébé, ah. Non, elle n'a rien commencé. Ça nous a aussi amené vers les ORL pour voir si elle n'avait pas un problème particulier pour les organes de parler. Et donc là aussi, on nous a rassuré que tout allait bien et que ça pourrait être que un retard. Donc de là, nous avons continué quand même les consultations avec le pédiatre à chaque fois que le besoin se fait sentir. Et toujours avec le neurologue parce que les crises épileptiques sont allées en s'aggravant. Et à chaque consultation, on ne faisait que nous ajouter des produits pour la calmer, pour la faire dormir, ainsi de suite. Et nous avons remarqué que comme elle ne parlait pas, elle n'arrivait pas à communiquer. Si elle a un besoin, donc elle a commencé par développer des crises de nervosité, ou bien comment je peux dire, de colère. Donc si elle a un besoin, vous n'arrivez pas à déterminer quoi. Elle commence par de pas crier, par se laisser tomber par terre, par cogner les choses, renverser. Elle se cogne partout. Et donc, elle a commencé par être très, 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 très en colère, très agitée à chaque fois qu'il y a un besoin que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à sentir de quoi il s'agit. Donc, la colère, l'énervement s'est ajouté avec les crises épileptiques. Et franchement, à son âge, 4, 5 ans, vraiment, elle avait une telle force dans les muscles. Elle renversait tout ce qu'elle trouvait sur son passage. Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Et tout au long de la journée, c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Et il va falloir peut-être lui donner des produits puisqu'elle puisse dormir. Pour que la maison se calme un peu, pour que tout le monde aussi puisse avoir un peu de la calme. Donc pendant tout ce temps-là, on allait de l'hôpital de médecin à un autre, de spécialiste à un autre, du pédiatre au neurologue, à l'ophtalmologue, chez l'ORL. On est allé faire le scanner, on est allé faire l'IRM, on a fait toutes les analyses possibles, et ils n'ont rien décelé. Et tout le monde nous disait que c'est un retard. Maintenant, parce qu'elle n'arrive pas à parler, parce qu'elle n'arrive pas à communiquer, c'est ça qui donne des crises d'agitation et autres. Et que les crises épileptiques allaient aussi un jour fini. Donc nous sommes là et puis ça ne s'améliorait pas, ça ne faisait que s'augmenter, ça ne faisait que s'augmenter. Surtout l'hyper-agitation. Elle était tellement hyper agitée et elle faisait tellement des crises de colère que vraiment c'était devenu insupportable à la maison. Donc ça là, on ne pouvait même pas dire qu'on va l'amener à une école. Quand nous-mêmes, nous savons que nos écoles au Togo, la plupart ne sont pas, ce n'est même pas la plupart, toutes les écoles n'ont pas des structures adaptées pour accueillir des enfants hyper agités. Nous avons des camarades, des parents qui ont attesté, moi je n'ai pas essayé, mais d'autres ont essayé, d'autres dont les enfants sont hyper agités, mais un peu moindres, ont essayé d'amener les enfants à l'école, l'école entre parenthèses ordinaire, mais l'enfant ne va même pas faire 2 heures de temps, on va rappeler le parent de venir prendre son enfant parce que l'enfant ne reste pas tranquille, on a 50, 60 dans la salle et on ne peut pas prendre tout son temps pour s'occuper d'un seul élève. Et c'est comme ça que beaucoup de parents n'ont pas pu amener leurs enfants à l'école. Donc là, il nous fallait vraiment qu'un spécialiste dans notre cas nous dise par exemple que voilà de quoi souffre ton enfant. Et on ne l'a pas eu jusqu'à l'âge de 8 ans. C'est à partir de 8 ans que nous avons consulté une psychiatre, non, une psychologue qui, après avoir observé, après plusieurs questions, entretiens, m'a dit pour la première fois que ma fille aurait des traits autistiques. À ce moment-là, c'est la première fois moi-même j'ai appris ce mot-là et je demande c'est quoi? Que vous n'avez jamais entendu parler de l'autisme? J'ai dit non. Donc elle a expliqué un peu ce que c'est et j'ai dû moi-même noter le nom pour ne pas oublier. Une fois arrivé à la maison, je me suis mise à la recherche pour comprendre vraiment ce que c'est. Et au fur et à mesure que je cherche et je trouve des comportements, des agissements, je vois que mon enfant a les mêmes agissements que ceux des enfants autistes. Donc c'est à partir de là que nous avons eu au moins l'idée que la fille doit être autiste. Mais là encore, ce n'était que des suppositions.
Donc en fait, vous nous dites que votre enfant n'a pas été clairement diagnostiqué comme étant autiste, mais ça, c'est venu comme une supposition.
Où est-ce que nous allons trouver un médecin, un spécialiste, si c'est orthophoniste, si c'est neurologue, psychologue, psychiatre, pour nous poser vraiment le diagnostic, pour qu'on puisse nous dire concrètement, voilà, l'enfant est autiste à tel degré, voilà ses caractéristiques, nous n'en avons pas eu jusqu'à présent. Entre-temps, parce que elle ne parlait pas, elle ne communiquait pas même avec des gestes. On a visité aussi les orthophonistes et on a eu à payer des séances d'orthophonie, des rééducations orthophonistes. Donc, tout ça là, bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas apporté beaucoup de grand-chose, mais ça a apporté quelque chose. Ça n'a pas apporté grand-chose, mais quand même, ça a contribué à quelque chose.
Et pour ce qu'il en est de la scolarité, est-ce que vous avez trouvé des écoles inclusives ou des structures spécialisées pour vous aider à prendre en charge votre enfant?
Donc, ce n'est fondamentalement à l'âge de 8 ans qu'on a consulté la psychologue qui nous a sorti le mot de l'autisme pour la première fois. Et comme moi-même, en faisant des recherches, j'ai vu que les caractéristiques que présente mon enfant sont presque les mêmes que ce que décrit les recherches. Donc nous nous sommes dit maintenant quelle est la solution? Parce que dans les écoles, il n'y a pas une structure, il n'y a pas une école qui a des dispositions prises pour éduquer, pour enseigner, pour une éducation spécialisée des autistes. Et donc, la même psychologue nous a conseillé une ONG qui a créé une école aussi qui prend en charge l'éducation spécialisée des autistes. Nous avons commencé par là. Et bon, après, nous avons compris également que en matière d'autisme, ce ne sont pas les médicaments, parce qu'avec le neurologue, on avait pas mal de médicaments, mais ça ne donnait rien. Et donc, nous-mêmes, nous avons conclu de sevrer, avec bien sûr l'aval du neurologue, de sevrer petit à petit et peut-être de rester à un strict minimum pour pouvoir la calmer. Et donc, la solution, c'était l'éducation spécialisée. Trouver maintenant cette éducation spécialisée, c'était devenu problème. Donc, c'est dans cette recherche-là que nous sommes tombés sur l'association ATMM, dont nous félicitons et nous disons grand merci aux promoteurs, parce que sans vraiment ces structures, ONG, associations, on n'aura nulle part à au moins amener nos enfants pour ne serait-ce qu'un début d'éducation.
Pouvez-vous partager les difficultés que vous rencontrez au quotidien? La pression mentale, ce que les autres ne voient pas. Comment vous gérez les comportements difficiles, la fatigue devant la vigilance constante et toutes ces choses qu'on ne voit pas.
Depuis ce temps-là jusqu'à l'âge de 8 à 9 ans, ma fille était à la maison. Et donc, il fallait trouver une nounou avec laquelle elle va rester à la maison pour que nous on puisse aller au service. Et ça devait devenir compliqué parce que c'était tellement difficile à gérer que rares sont ces nounous-là qui acceptent venir subir tout ce que l'enfant faisait. Vous pouvez être là, vous avez préparé pour l'enfant, elle a bien faim, vous amenez la nourriture et puis elle prend le plat, elle jette. Ou vous êtes en train de préparer, ou vous avez vraiment fini d'arranger quelque chose et l'enfant vient, il renverse tout et puis tout est à répandre. Il faut toujours nettoyer la maison. Il faut s'occuper aussi de l'enfant lui-même parce qu'elle n'avait pas aussi l'hygiène. Donc il fallait, côté hygiène également, s'occuper d'elle. Il fallait laver toujours parce qu'elle n'arrive pas à s'orienter, à bien faire sa toilette. Donc, il fallait d'abord lui faire la toilette et puis arranger, laver toujours, faire la vaisselle, nettoyer la maison. Donc du travail en permanence, ça fait que les nounous n'arrivaient pas. Rares sont ces nounous qui ont accepté le faire pendant un temps. Et donc, pendant la période où vous n'avez pas de nounou, vous devez vous réveiller très tôt, arranger tout ceci, s'occuper, bien nettoyer l'enfant, vous-même vous apprêter, et vous devez la transporter pour aller la déposer chez une soeur et avant d'aller au service. Et là également aussi, quand elle arrive là-bas, c'est des dégâts. Tu es au service, on t'appelle pour dire que bon voilà, elle a renversé ceci. Parfois même, elle s'est brûlée, peut-être avec le chaud, avec le feu, elle n'a pas prêté attention. Et donc, tu es obligé d'arrêter l'eau et de courir pour arriver, pour aller à l'hôpital. Et c'est dans ce cercle vicieux-là que nous sommes jusqu'à au moment où nous avons au moins retrouvé l'association ATMM, avec qui nous avons commencé le cheminement. Et nous sommes arrivés, ensemble avec les parents, nous sommes arrivés à mettre en place un début d'école, d'éducation spécialisée pour nos enfants.
Avez-vous un souvenir marquant qui reflète la difficulté d'être maman d'un enfant autiste et que vous voudrez bien partager avec nous?
Il y a beaucoup de souvenirs et ça ne, ce n'est pas encore fini parce que l'autisme, on en a pour toute la vie et c'est le mieux que nous espérons un peu d'accalmer. Je peux dire que depuis que nous avons commencé par faire de l'éducation spécialisée avec les ONG et associations, ça a commencé par aller parce que nous nous sommes rendus compte que ce ne sont pas les médicaments, mais c'est plutôt l'éducation spécialisée. Avec l'éducation spécialisée, elle atteint même par exemple, donc, elle a acquis un début de propreté. Au moins, elle arrive à faire signe quand elle a envie de faire le pipi. Et on arrive à la guider vers les toilettes. Donc, elle a au moins un début d'acquisition de la propreté. Avec l'éducation spécialisée, elle arrive à s'asseoir, à manger seule. Elle arrive à faire pas mal de choses qu'on n'avait pas eu depuis le bas âge. Et c'est maintenant à 14 ans qu'on acquiert peut-être certaines choses qu'on aurait dû acquérir quand elle avait 2 ans. Donc maintenant, souvenir, c'est que ça m'a gardé beaucoup, même des séquelles physiques. Actuellement, j'ai des problèmes lombaires pour avoir porté longtemps ma fille au dos. Même à la maison, quand ça met de trop, il va falloir chercher un pan du mettre au dos. Même au dos, elle ne va pas cesser de bouger, de chercher à descendre, alors qu'il fallait la mettre là, peut-être pour éviter qu'elle-même se blesse, pour éviter qu'elle fasse tout. Et donc, je m'en sors maintenant avec des douleurs lombaires.
Qu'en est-il de l'entourage, le jugement de l'entourage? Est-ce que des gens interprètent mal ces comportements? Est-ce que vous avez été confronté à la stigmatisation?
À l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, là-bas, même ce qui fait mal, c'est la réaction du personnel médical. À l'accueil, on va vous demander pourquoi elle fait ça? Pourquoi ton enfant crie comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Comme si toi, tu avais la solution avant de venir à l'hôpital. Oh, comment on va faire pour lui prendre le poids? Elle ne reste pas tranquille, on ne peut pas prendre la température. Oh, comment on va faire? On te pose les questions comme si tu avais une solution avant de venir. Dans la rue, c'est comme ça. Si tu tentes un peu de sortir l'enfant pour prendre de l'air. Il y a une fois quelqu'un qui m'a demandé, oh, quel est Dinelem? Qu'est-ce qui crie comme ça? Même pas une personne, hein. Pour lui, c'est un animal ou quelque chose qui crie. Donc vraiment, on vous regarde, c'est comme si toi tu as fait quelque chose de mauvais quelque part et que tu as le sort ou bien tu as ce triste sort. Mais bon, on est arrivé à un moment, c'est dit que ce n'est pas la peine de regarder tout ce que les gens disent ou les gens pensent. On va à l'objectif. Si on est sorti pour se balader, on se focaliser sur la balade pour qu'on puisse finir, donc atteindre notre objectif avant de rentrer à la maison. Donc vraiment, c'est très difficile, je peux l'avouer, très difficile de s'occuper d'un enfant autiste. Vous n'avez même pas un seul temps de répit. Même quand vous êtes au service, de temps en temps, il faut appeler la maison. Maintenant, à l'école, c'est encore mieux parce que là, si ça ne va pas, eux-mêmes, ils vont vous appeler. Si c'est à la maison, donc, il faut déjà de temps en temps voir si tout marche bien. Et si ça ne va pas, on arrête et on court à la maison pour faire. De telle sorte que la pression est toujours là. Et en tant que maman, il n'y a personne qui puisse faire le travail qu'une maman d'un enfant autiste peut faire. Il n'y a personne. Les nounous ne peuvent pas. Les hommes, les parents font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas faire toute la totalité, tout le travail que les mamans font.
Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites pour laisser échapper la pression lorsque vous êtes submergé?
C'est toi qui es là partout, aux toilettes, à la cuisine, pour la calmer, pour lui faire manger, pour l'amener à se promener, pour l'amener à l'école. Tu es là partout. Et on m'a donné, il n'y a même plus de temps pour s'occuper de toi-même. Tu es là. C'est ça, quand l'enfant est un peu à l'aise, un peu calme, que toi-même tu vas t'asseoir quelque part, tu fais un ouf de soulagement. Et ce ouf-là, c'est jusqu'à ce que l'enfant ne reprenne encore une autre crise ou bien d'autres dégâts et tu te lèves en même temps. Même pour aller peut-être prendre 2 ou 3 jours pour essayer de se relaxer, un petit congé, on n'arrive pas à le faire. Parce que tu te dis, si je m'en vais, qu'est-ce qui va advenir à mon enfant? Et puis là, on est là, on est là. Et puis chaque jour, c'est la pression, toujours la pression. Le stress, vraiment, il est très haut. Il est très haut. On m'a donné. Tu ne te sens même plus bien dans la tête. Mais tu es obligé, de continuer à subvenir à cet enfant-là, à s'occuper de lui. Tu ne peux pas. Donc, quelque part, on est résolu à se dire que bon, c'est une mission. Moi, je me dis, c'est une mission divine. Et si Dieu me l'a donné, cet enfant comme ça, c'est que lui-même, il sait que je suis capable de m'en occuper. Et toute ma prière, c'est que lui-même, qui m'a confié cette mission, puisse m'aider, à pouvoir, accomplir cette mission. Et la prière, elle est bien là, mais aussi un cri de cœur au niveau de la communauté, à la communauté à laquelle nous demandons de l'aide. Nous, les parents d'enfants autistes, nous demandons de l'aide, surtout au niveau du gouvernement, pour que nos enfants puissent avoir une place dans la société. Il est bien dit, écrit, que notre école, en notre pays, l'école est inclusive, c'est-à-dire qu'aucun enfant ne doit être exclu de l'école. Tous les enfants doivent être admis à l'école. Donc, nous prions nos autorités de mettre des infrastructures sur place, pouvant permettre d'accueillir aussi à l'école les enfants autistes. Une fois que les infrastructures adaptées sont mises en place, nous pourrons aussi pousser un ouf de soulagement. Quand l'enfant est à l'école, au moins ça vous permet de faire bien le travail, de le déposer le matin et de s'occuper de ses activités dans la journée et venir le prendre fin de journée. Donc ça peut beaucoup nous aider.
Très chers amis, ceci est le témoignage de Madame Chagbataou. Êtes-vous aussi touché par cette histoire que je le suis? C'est poignant, c'est très poignant. J'imagine l'ampleur de la charge mentale et émotionnelle qu'elle porte au quotidien. Cela doit être terrible. À la communauté en général, je dirais ceci. Ne jugeons pas ce que nous ne comprenons pas. Les autistes n'ont pas demandé à être tels qu'ils sont. Potentiellement, chaque enfant peut développer ses traits de caractère. Autant les vôtres que les miens. Soyons tolérants, soyons empathiques et apprenons à vivre ensemble. Et pour faire écho au cri de cœur de cette femme courageuse, nous lançons un appel à qui de droit? À nos gouvernants, pour que des infrastructures adaptées soient mises en place afin que l'école soit réellement inclusive. pour que des enfants comme la fille dont parle le témoignage puissent avoir une vie décente et toute l'aide dont ils ont besoin pour fleurir. Ne nous y trompons pas, ces enfants, ces personnes ont toute leur place au sein de la société. Ils ont énormément à offrir. Chers amis, nous voici à la fin de ce numéro, témoignage sur l'autisme. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère de tout cœur vous avoir apporté quelque chose. Souvenez-vous, la santé n'a pas de prix. Alors prenez soin de vous, autant le physique que le mental. Prenez du temps pour vous occuper de vous et uniquement de vous. Parce que si vous êtes vide, si votre coupe est vide, vous ne pourrez pas remplir celle des autres. Si vous voulez partager votre vécu avec nous, contactez Radio Jenna sur le 90 13 89 94. Et je me ferai une joie d'en parler avec vous dont les mots comptaient. Rendez-vous les premiers et derniers jeudis du mois à 10h sur Jenna pour un nouveau numéro du podcast. Merci pour votre belle compagnie. Je m'appelle Délivrance T et je vous dis à très vite.